à lire les coups de cœur de Laurence, des rencontres avec des auteurs, des lecteurs et pas que. Le deuxième vendredi du mois à 11h sur nos ondes. Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons avec une invitée de marque, Gaëlle Heureux, qui est animatrice aussi sur nos ondes et qui va venir nous parler de son travail d'écrivain et bien évidemment de son travail d'animatrice de son émission. Donc ça ne m'empêchera pas de vous proposer ma petite sélection mensuelle avec entre autres Michel Bussy, bien évidemment les œuvres de Gaëlle Heureux, Alexandre Jolien, Jean-Paul Didier Laurent, et on fera même un petit tour vers Maxime Chattam. Et tout d'abord, donc, je vais dire bonjour à notre invité. Bonjour Gaëlle.
Bonjour Laurence.
Alors donc tu vas venir nous parler de tes œuvres et c'est vrai que chez moi elles ont suscité pas mal de questions. Je vais faire en sorte aussi de te présenter ma sélection et peut-être amener certaines questions te concernant par rapport à mes lectures. Tout d'abord je voulais donc parler de ce recueil de nouvelles « T'en souviens-tu mon Anaïs » donc de Michel Bussy. C'est un recueil plus ou moins fantastique, parfois s'appuyant sur une base historique, géographique, comme la nouvelle donc éponyme « T'en souviens-tu mon Anaïs » ou celle qui s'appelle « Vide-grenier ». Parfois, la chute est un peu cruelle, comme dans « Une fugue au paradis » et l'humour est grinçant en ce qui concerne l'armoire normande. J'ai passé un très bon moment à la lecture de ce recueil. L'écriture de Michel Bussy est légère, impliquée, juste et pleine de finesse. J'ai compris son succès qui est loin d'être usurpé, donc je vais vous lire un passage de ce recueil « T'en souviens-tu mon Anaïs » et plus particulièrement donc un passage de la nouvelle « L'armoire normande ». Donc c'est un couple qui est parti reposer dans une chambre d'hôte et il ne voit que l'époux. Et il se pose beaucoup de questions parce qu'il est question de l'épouse qui doit revenir systématiquement, mais elle ne revient pas. Et il y a une mystérieuse armoire dans la chambre qu'occupe le couple. Ils se posent beaucoup de questions, ils entendent des bruits. Bref, ça les perturbe énormément. Donc je vais vous lire un petit passage donc de cette nouvelle. Ils ne croisèrent pas Lefèvre après s'être garés. Ils aperçurent simplement sa silhouette à l'autre bout de la propriété, occupé à pousser une brouette en direction d'une grange où il devait vraisemblablement entreposer de quoi entretenir le jardin. Ils entrèrent dans la renardière, traînèrent, inspectèrent chaque pièce en faisant grincer le parquet avant de se retrouver face à la porte de leur chambre. Toujours aucune trace de Madame Lefèvre. « Va lui demander, » proposa Diane Perle, « va demander à cette ours si sa femme va finir par rentrer dans la grotte. » Gauvin s'était déjà affalé sur le lit épuisé. « Puisqu'elle est morte !» Diane Perle ne releva pas, haussa les épaules et s'avança pour ouvrir la fenêtre. Cette fois, Gauvin sentait lui aussi cette odeur entêtante, le charme de la campagne, imagina-t-il, des vieilles bâtisses, l'humidité sournoise, le crime invisible des années qui passent, du temps assassin, juste une légère odeur pour dénoncer son sale boulot, le papier qui moisit, le bois qui se putréfie, le tissu qui jaunit. Bizarre tout de même que cette femme ne soit pas là, continua Diane Perle. Voilà, c'était un extrait donc de l'armoire normande issue du recueil « T'en souviens-tu, mon Anaïs » donc de Michel Bussy. Alors si j'ai sélectionné cet ouvrage, c'est qu'il me semble qu'il y a quelques points communs avec le premier ouvrage de Gaëlle, donc notre invitée, « Sanglier noir, pivoine rose », puisqu'il s'agit d'un recueil aussi et qu'à certains moments, nous sommes bien dans le fantastique.
Oui, on est dans le fantastique. Je crois pas qu'il y ait d'armoire, mais peut-être que si, en fait. Je me souviens pas trop, mais je crois pas. En tout cas, ça grince un peu quand même dans ce recueil aussi. Et oui, il y a du fantastique. En fait, c'est du quotidien, je dirais. C'est vraiment de la quotidienneté, des choses toutes simples de la vie courante, cernées par le fantastique. On est toujours un peu à la lisière entre les deux, entre le réel et quelque chose qui serait surnaturel, qui arrive comme ça, qui jaillit, qui fait effraction dans l'histoire. Oui. C'est des petites touches.
On a surtout l'impression, enfin, quand on lit, on se dit soit, mais où part-elle ? Où part la narratrice, soit, ou le narrateur, soit, que finalement le narrateur devient fou. C'est-à-dire que soit le personnage narrateur devient fou, puisque bien souvent, j'ai remarqué dans ces nouvelles, on est sur une narration à la première personne.
Tout le temps, oui. Les 15 textes sont écrits avec « je », tout le temps. Oui, oui, oui. Ça crée une unité aussi dans le recueil. C'est un peu toujours finalement, c'est pas la même personne, mais il y a des personnages qui reviennent, qui sont récurrents,
oui,
qui traversent les histoires, qu'on retrouve d'une histoire à l'autre. Oui. C'est comme une espèce de puzzle ou de village.
Ça m'a fait effectivement penser à certains films, tu sais, où les personnages entremêlent leur vie. Ils reviennent, ils repassent, ils connaissent certains, etc. Tout est imbriqué.
Oui.
Genre Love Actually, tu vois, pour présenter.
En
plus noir, bien évidemment.
Oui, oui.
Mais bon, on retrouve aussi des films de ce style-là, bien français, mais c'est celui dont j'ai en tête. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça pertinent dans ce recueil de voir ressurgir finalement des personnages ou des petites thématiques ou des objets carrément. Je t'en parlais hors antenne. C'est vrai que ces objets comme la tête de sanglier, je me suis demandé, parce que j'ai lu que tu avais fait des études de psycho, je me suis demandé ce que c'était pour toi la symbolique de cette tête d'un sanglier.
Alors je ne sais pas, mais je pense que mon écriture, de toute façon, est traversée par la symbolique, la métaphore, le symbolisme, et que dans le symbolisme, on a très souvent recours aux animaux, parce que c'est les animaux, pour moi, égalent le symbolisme. Je pense que c'est ce qu'on nous dit quand on est tout petit, les histoires qu'on nous raconte sont peuplées d'animaux, toujours. Donc la tête de sanglier, alors qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est un petit peu comme dans un rêve. Dans les rêves aussi, on a beaucoup d'animaux, on retrouve beaucoup d'animaux, une espèce d'inconscient collectif comme ça. La tête de sanglier, je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de sangliers ou de cochons dans ce que j'écris toujours.
Oui, c'est très le curieux. Potamochère.
Le potamochère, qui est un cousin du phacochère, le tête de sanglier... Alors, il y a une espèce de sauvagerie, sans doute, de férocité, de solitude aussi dans le sanglier, puisque le sanglier, je crois que ça vient, la racine du mot sanglier, c'est singularis, qui veut dire singulier, qui veut donc dire seul.
Oui.
Je pense que c'est ça.
Oui.
Ouais.
Ouais.
En fait, voilà, ça me revient maintenant, il faut relancer la machine.
Est-ce que ce sanglier, tel qu'il apparaît sous différentes formes, et puis c'est vrai que tu fais référence à tout un bestiaire, et on le voit même dans la nouvelle qui m'a particulièrement intéressée, celle de la Mercière, où dans le catalogue, elle propose effectivement des canevas avec des thématiques, avec beaucoup d'animaux. Et puis tout d'un coup apparaît une tête, cette tête qui aussi est une résurgence finalement de la tête du sanglier, quelque part, cette tête coupée qu'on a.
Oui, oui, c'est violent, parce que c'est une femme qui est mercière, qui a une petite boutique tranquille comme ça, qui est toute lisse. Je crois qu'elle dit que sa vie est lisse comme du papier sulfurisé, je crois, à un moment.
Oui, tout à fait.
Et en fait, pas du tout. En fait, tout est planqué sous le tapis. Et la tête, le fait qu'elle ait cette phobie de voir une tête dans sa poubelle de cuisine... Enfin, c'est le signe que des choses ne vont pas, ou qu'il y a des choses comme ça qui ne sont pas, qui n'ont jamais été travaillées, épanouies, exorcisées en fait. Cette tête est là pour lui rappeler, lui fait très peur justement, puisqu'une espèce de retour du refoulé, si on veut parler un peu.
Moi, j'ai l'impression qu'elle est, pour parler donc de cette nouvelle en particulier, parce qu'elle m'a beaucoup marquée, je l'ai vraiment encore en tête. En plus, il y a une résurgence après avec cette histoire. Donc de lieux religieux qui brûlent. On la voit finalement dans ses angoisses, les angoisses du feu, les angoisses liées donc à cette tête. Elle est dans un quotidien qui l'enferme. Finalement, elle est dans une sorte de quelque chose qui est inscrit, puisqu'elle est mercière, ils sont mercières.
Voilà, elle est mercière de génération en génération, oui.
Et donc, j'ai l'impression qu'elle est vraiment dans un quotidien qui l'enferme, même avec... elle semble avoir un quotidien très, très établi, sa petite maison, son mari, qui est fonctionnaire en plus. Alors, ça donne quelque chose, ça donne l'impression d'une très, très grande stabilité. Et elle est dans une mouvance intérieure quand même extrêmement importante. Donc, c'est vrai qu'il y a une opposition entre ce qu'elle vit... Et sa situation géographique, sa situation de femme mariée qui pense
qui étouffe en fait, voilà. C'est un peu, ouais. Oui, c'est un peu la C'est un peu Emma Bovary, enfin, je veux dire, c'est un peu ce syndrome-là,
oui.
D'une vie assez étriquée, très établie, très stable, et d'une voilà, donc toutes ses aspirations, en fait, toute sa violence intérieure, même ressort dans cette tête. Mmh. Et,
Ceci dit, moi, je ne la vois pas comme une Emma Bovary, parce que, pour moi, Emma Bovary, elle est quand même un peu plus dans la passivité, elle. Malgré tout, malgré son mari, malgré ce que les gens peuvent penser, elle se lève la nuit, elle va vérifier sa mercerie.
Elle va vérifier, je crois, me souvenir, si elle n'a pas laissé sa machine à café allumée,
oui.
Parce qu'elle a très très peur que sa mercerie brûle.
C'est ça.
Donc elle a une angoisse comme ça, en plein milieu de la nuit, elle chausse ses bottes, hein, elle va en pyjama avec des bottes et
oui.
Elle prend sa voiture et elle roule jusqu'à sa mercerie, qui n'est pas très loin, enfin, on imagine à une dizaine de kilomètres,
oui, oui.
Et elle va vérifier.
Mm-mm.
Qu'elle a bien éteint sa cafetière. La cafetière étant une autre façon de dire sa tête, en fait. Hein. Mmh. Elle a éteint sa tête, en fait, cette femme. Et ouais. Ça lui pose un problème. Et je pense qu'après, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est intéressant le fait que dans la nouvelle suivante, l'église brûle.
Oui.
Il y a une idée que la religion aussi a peut-être eu un effet comme ça d'enfermer la femme et de la laisser dans sa cuisine. Ou
ouais.
Dans sa mercerie, enfin, dans des choses typiquement féminines,
mm-hmm.
qu'on dit typiquement féminines.
Et c'est vrai que ce prêtre-là, il y a quelque chose qui nous parle d'actualité dans l'histoire de ce prêtre qui ne sait pas nager, qui est dans une adoration, qui est, enfin, le lieu a brûlé. Et puis, je me rappelle de son recueillement qui n'est pas un recueillement totalement désintéressé. Il est dans une adoration aussi de la femme. Mine de rien, à un moment donné, la statue de la Vierge, il la regarde.
Il regarde les pieds,
je crois. Il y a
une sensualité,
je crois,
des pieds. Sensualité, oui.
Oui,
il n'arrive pas, en fait. Oui, il a quelque chose dans la chair qui finalement le rattrape.
Oui.
Et donc, il est très mal à l'aise. Il fait un malaise un peu, je crois.
Mm-mm.
Il est très, très mal à l'aise avec ce désir, en fait, qu'il sent poindre. Et le fait qu'il doive apprendre à nager. Parce que la communauté s'en va sur une île et il doit apprendre à nager, il ne sait pas nager, il prend des cours, lui fait prendre conscience de la totalité de son corps et de comment son corps fonctionne, puisque jusque-là, il avait l'habitude de se laver par petits morceaux,
oui.
De façon très morcelée. Donc tout ça travaille dans sa tête et le déstabilise très fortement.
Oui, des morceaux, il y en a quand même beaucoup dans le recueil. Enfin, je pense à donc ces rémanences de la figure du sanglier, plus particulièrement de la tête, hein, de ce trophée de chasse qu'on trouve dès le début du recueil. Moi, j'ai eu l'impression entre nous que une des premières scènes de cette nouvelle se passait à l'hôpital Fleuriat.
Ah bon ?
Parce qu'il y a des escalators dans cet hôpital, et après il y a une descente à un moment donné des escalators, et je me suis dit non, mais elle a pris Fleuriat comme modèle.
Dans les nouvelles ou dans le roman ?
Alors attendez.
Je pense que c'est plutôt dans le roman.
Est-ce que je ne fais pas la confusion
ouais,
avec
ça, c'est
le destin ?
Tu parles d'un destin miniature.
Oui, alors c'est peut-être effectivement quand
oui.
il sort de l'hôpital, et
oui.
je me suis dit ah non, mais c'est Fleuriat.
Oui, c'est fort possible. Que j'ai le modèle en tête soit Fleuriat, oui, c'est très possible. Oui.
Les escalators qui ne fonctionnent
oui,
pas,
oui,
je crois.
Oui.
c'est ça. Non, mais
Fleuriat,
mais ça peut. À Fleuriat, mais c'est
fonctionne
incroyable.
Jamais.
Il
c'est
fonctionne
un problème.
Jamais.
Ah
oui.
Bon.
Ah,
bah,
oui.
Sans doute que j'ai dû être confrontée à cette difficulté à un moment donné.
Il y en a un au moins qui ne fonctionne pas sur les deux montées. Je ne veux pas les incriminer, mais quand on n'est pas très, très bien et qu'il faut monter toutes les marches, c'est un peu compliqué.
Mais on écrit toujours d'un lieu. Sans doute que moi, je suis de Bourg, je suis née ici et qu'il y a beaucoup d'endroits comme ça dans mon écriture. Il y a dans le recueil, je crois qu'il y a la semeuse
oui.
qui est la statue en face dans le parc en face de la préfecture.
Oui, j'ai pensé à celle-là. Je me suis dit que c'était la seule qui me venait à l'esprit,
ouais,
effectivement.
Oui.
Et je crois que la prochaine fois que je vais passer là-bas, je la regarderai beaucoup plus précisément parce que je me suis dit, ben voilà.
Ah, oui.
C'est elle et j'aime bien retrouver justement des petites références à mon quotidien, les voir comme ça. Hein. Déjà le mois dernier, j'avais parlé d'un ouvrage comme ça qui parlait de Bourg-en-Bresse. Ça m'avait bien interpellée. Alors là, avec ce recueil sur Sanglier Noir, donc Pivoine Rose, on tombe quelquefois aussi dans ce qu'on disait hors antenne, une certaine noirceur. Et justement, ce mois-ci, j'ai lu un ouvrage qui est extrêmement noir pour le coup, mais encore plus noir que tes recueils. Hein. Enfin, que ton recueil, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas photo. Alors, il est question d'une autre fleur, la pivoine... je veux dire, laisse place chez Maxime Chatham dans le roman Que ta volonté soit faite au Coquelicot, qui est la signature finalement d'un violeur. Et donc, c'est un personnage extrêmement noir. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce roman de Maxime Chatham qui m'a vraiment marquée. Alors, c'est vrai qu'au départ, quand on le lit, on est comme fasciné, mais ça glace, ça horrifie. Et la fin est extrêmement surprenante. En tout cas, ce sont des éléments comme ça qui m'ont fait apprécier cet ouvrage. Donc, on est tout de suite dans le cœur de l'action avec Riley et John Peterson. On apprend, malgré la relation des deux personnages, que l'un est le père de l'autre. Et John Peterson, donc, est un monstre. Et il tue cruellement le petit chiot que son fils vient d'adopter. On plonge alors dans l'enfance de cet homme, John Peterson. On apprend sa généalogie, qui est déjà une généalogie qui est empreinte de brutalité, de sang, de violence. Et puis, pourtant, ça ne justifie pas le mal qu'il habite. Hein. On apprend par la suite que John, au moment donc de son adolescence, a une sexualité extrêmement violente. Il viole des jeunes filles et leur laisse comme une signature, comme je disais tout à l'heure, donc un coquelicot hein, qui marque donc le fait qu'elles ont été déflorées. Sa violence, sa maladie, sa perversion sont exposées sans filtre. Et vraiment, c'est ce qui fait que cet ouvrage-là glace le sang. Il va pourtant se marier. On pourrait espérer un mieux, d'autant plus qu'il devient père. Mais malheureusement, bon, on passe d'un drame à un autre. Et ça m'a vraiment glacé le sang. Donc, je vais vous lire un court passage de ce roman donc, de Maxime Chatham, Que ta volonté soit faite. Cette année, la médaille d'honneur revenait à Richard Bocchetti, un fils de Rital, comme disaient John et d'autres garçons assez peu subtils. Ce n'était pas un mauvais goût, bougre, pardon, John le connaissait bien pour avoir partagé une classe avec lui. Richard, lui, avait même proposé de l'aide en comprenant que John était largué en mathématiques, puis en anglais, avant de réaliser qu'il était complètement perdu dans la plupart des matières. Mais John était trop fier pour accepter, et puis ça ne l'intéressait pas. Richard était le genre de garçon qui prenait l'école très au sérieux, qui tenait des discours un peu idiots ou agaçants, affirmant qu'étudier était l'unique tremplin social digne de ce pays, un gentil type en soi. John ne pouvait le nier, mais un brin épuisant de naïveté à toujours voir la verre à moitié plein à dispenser ses messages d'espoir et de réussite pour tous. Son unique échec retentissant, c'était avec les filles. Sa coupe de cheveux trop impeccable, ses lunettes à grosse monture et ses chemises parfaitement repassées le faisaient davantage ressembler à l'un de ces Irlandais dressés pour filer dans une prestigieuse université de la côte. Et avant de finir par une brillante carrière politique comme ça devenait la mode ces derniers temps, plutôt qu'à un fils d'immigré italien élevé dans un patelin perdu. Il n'avait pas la gouaille de son père, ni le charme de sa mère en matière de séduction. Il frisait la neurasthénie, mais ce jour-là, en le voyant tout fier dans son plus beau blazer, trépignant d'impatience dans l'attente d'être appelé sur l'estrade, John devina que Richard allait marquer des points auprès de la gente féminine. Parce que les filles étaient de vrais moustiques, toujours attirées par la lumière, quitte à se cramer les ailes, quitte à finir en caramel d'insectes, songeait-il un rictus aux lèvres, mais c'était plus fort qu'elles. Quand un homme se hissait un tout petit peu plus haut que les autres, ça les émoustillait comme des gamines devant une pomme d'amour bien juteuse à la fête foraine annuelle de Wichita. Donc je m'arrête là sur l'extrait, mais en filigrane se détache donc toute la vision finalement d'un homme de la part de ce personnage affreux qui est John Peterson, qui va donc humilier terriblement et de la façon la plus simple finalement ce personnage qu'il nous décrit, donc Richard Bocchetti. Voilà, donc c'est un roman qu'on ne lâche pas comme ça et qui nous glace, qui nous fait vraiment peur, parce qu'on n'est pas dans le fantastique, on est vraiment dans un côté très très réaliste et cette réalité qui fait peur de Max Chatham. Voilà. Donc, cette violence, cette réalité qui fait peur, on la retrouve aussi, je trouve, dans le recueil, et plus particulièrement dans une nouvelle dont tu m'as dit hors antenne auxquelles beaucoup de gens finalement réagissaient, c'est En cette lettre. Tu veux nous en parler de cette nouvelle et ce qui t'a animé finalement quand...
Je suis pas sûre que ce soit celle-ci.
C'est celle dont de tu cette parles. Femme.
Des fleurs toute l'année.
Ah oui, des fleurs toute l'année. Oui, parce que dans cette lettre, c'est Sharpie. Et ça, Sharpie aussi, c'est d'une grande violence. Hein. Voilà, c'est cet homme-là qui guette le chat et qui, au final, l'enferme dans le moteur de la voiture et qui le cherche.
Il se retrouve dans le moteur de la voiture, oui. Il y a beaucoup de chats, en fait. Le recueil est traversé par énormément de bestioles en tout genre. Il y a aussi beaucoup de chats, oui. Mais c'est des fleurs toute l'année dont tu parles,
oui,
je pense.
Oui, tout à fait, oui.
Ah, oui.
C'est terrible, cette histoire.
Oui, oui.
Pour moi, elle me...
Elle est très...
Elle me touche beaucoup.
Oui. Elle est très courte et je pense qu'elle est en effet assez forte, oui. Assez, elle marque parce qu'il y a un twist, en fait. Hein. On pense à quelque chose d'assez... Il y a des fleurs, tout va bien. Enfin, et d'un seul coup, ça se retourne. Il y a un renversement de... situation assez brutale.
La fleur, en général, montre... dans le couple, est un signe de tendresse.
De bonne santé du couple.
Voilà, il y a toujours une attention. Enfin, voilà. Alors que là, tu en fais quelque chose, finalement, qui vient laver des gestes d'une très grande violence. Voilà. Et cette femme est totalement... Enfin, quelque part, est... À la fois, elle est à l'image de la mercière qui reste dans son petit monde et voilà. Et elle ne veut absolument pas bouger. Elle ne semble pas plus perturbée que cela.
Elle est quand même assez perturbée parce que quand elle regarde, je crois, son jardin à travers les baies vitrées de son salon, elle voit dans son jardin un cimetière.
Ouais.
Elle imagine un cimetière à la place de son jardin. Elle hait ses fleurs, en fait. Parce que les fleurs ne sont pas ce qu'on croit. C'est pas...
Ouais.
Son mari lui offre des fleurs, mais pour une raison qui est, en fait... Assez dramatique pour elle.
Ouais.
Donc, les fleurs, oui, se transforment là. Il y a un lien entre les fleurs et les coups et le sang, en fait. Donc, c'est... Oui.
C'est les fleurs du mal.
Un peu, oui. Mais cette nouvelle fonctionne très bien aussi au-delà de la thématique, du sujet qui est fort en lui-même. Elle fonctionne parce qu'elle est efficace, parce qu'il y a une chute.
Oui.
Et qu'on ne s'attend pas à la chute. Et qu'il y a une espèce de... comme ça, roulement de tambour, talala, voilà ce qui va arriver, paf, tout le monde est étonné. Cette nouvelle, elle est construite d'une façon techniquement assez classique, en fait.
Oui.
Donc, je comprends tout à fait qu'on y soit sensible. Mais c'est... Après, il y a d'autres types de nouvelles que j'aime beaucoup, moi aussi, qui sont beaucoup plus flottantes, qui n'ont pas forcément une fin surprenante, mais qui auraient peut-être une fin avec trois petits points de suspension. Quelque chose qui serait plus long en bouche, comme ça, qui arriverait, et qui installe un univers, une ambiance, mais sans qu'il y ait forcément un désir que tout soit parfaitement bien empaqueté, que tout soit bien, je ne sais pas comment dire, que tout fonctionne bien, que tout soit bien efficace. Voilà. Oui. J'aime bien aussi les nouvelles d'ambiance et des nouvelles qui sont peut-être moins évidentes.
Tu penses à laquelle, là, dans le recueil, quand tu
On a beaucoup d'autres qui partent plus dans le fantastique et plus dans l'atmosphère et plus dans des choses inconscientes, un peu métaphoriques ou symboliques, dont on parlait tout à l'heure. Les chevaux rouges, par exemple, ou l'épreuve de Crawl, la tête de la mercière, le journal d'un ex-potamochère. Toutes les nouvelles du centre, en fait, du recueil sont peut-être un peu plus fantastiques. Elles sont très entremêlées, d'ailleurs.
C'est toi qui as choisi donc la succession des nouvelles.
Oui, quand j'en ai proposé, donc j'ai envoyé mon manuscrit à la table ronde en 2013, je crois, et j'ai été publiée début 2014. Et il me semble qu'avec mon éditrice, ma directrice littéraire, il me semble qu'on a changé deux ou trois nouvelles. Donc, elle m'a demandé si dans mes tiroirs, il me restait deux ou trois nouvelles. On a changé deux ou trois nouvelles sur une quinzaine, puisqu'il y en avait deux ou trois qu'elle jugeait un peu trop fantastiques, justement, et elle voulait une unité dans le recueil un peu plus... importante. Et donc on a, après, l'ordre, c'est, je l'ai vu avec elle, je l'ai retravaillé avec elle.
D'accord.
Ouais, c'est une chose qui se fait dans le travail de l'édition avec l'éditeur, ça.
Enfin, pour moi, si tu veux, ce qui, j'ai l'habitude quand même de lire un certain nombre de recueils, là, ce qui me marque vraiment, cette récurrence de certains personnages, enfin ces échos à travers les nouvelles, c'est pas forcément quelque chose que l'on retrouve donc dans les recueils, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que, c'est quelque chose auquel tu as pensé dès le départ quand tu as écrit tes nouvelles? Tu t'es dit, ces nouvelles-là, j'aimerais bien les retrouver ensemble et qu'elles forment finalement une sorte de patchwork.
Oui, parce que quand on démarre un recueil de nouvelles, il y a deux options. Soit on a déjà écrit un certain nombre de nouvelles et puis finalement on les met ensemble sans qu'il y ait forcément de lien ou même de parenté, hein. On peut avoir un recueil de nouvelles très disparates. Bon, après, on peut aussi composer vraiment son recueil de nouvelles. Donc, c'est peut être fait de multiples façons. Il peut y avoir un personnage récurrent, il peut y avoir un lieu récurrent, il peut y avoir... Ça peut être construit de plein de façons. Et moi, je trouvais intéressant d'avoir comme ça une espèce d'unité de ton. On dirait que c'est toujours un peu le même personnage, jeune ou vieux. Il y a une espèce d'unité comme ça, mais sans que ça soit complètement monotone, quoi. Il faut doser, en fait, une histoire de dosage entre quelque chose qui va unifier, qui va donc amener une certaine ambiance, une atmosphère. Ça fait un petit peu comme un village, hein, comme un monde fermé. Pour moi, le lien, il était là, dans ces résurgences, ces passages souterrains entre les nouvelles. Donc, on a des objets, des personnages, des choses qui reviennent comme ça, 2, 3, 4, 5, 6 nouvelles plus tard, et qui fait ce monde clos, ce lien. Mais tout ça est très travaillé. C'est-à-dire que les récurrences, je les connais, j'ai une liste de récurrences, je sais où je vais la reposer, où elle va ressortir. Et je pense que c'est assez... intéressant dans l'écriture parce que ça donne au lecteur une illusion de maîtrise. On se dit, tiens, voilà, elle a posé un élément A ici, et l'élément A, on va le retrouver 4-5 nouvelles et il tombe, paf. Si on a le bonheur qui tombe bien, on ne fait pas des récurrences pour faire des récurrences, eh bien, ça donne une illusion de réalité, en fait, de véracité, de quelque chose de réel. Et c'est là qu'on a une petite chance d'embarquer le lecteur.
Alors, on s'est connus, Gaëlle, je semble faire là une petite rupture dans ce que nous sommes en train de dire. On s'est connus lors d'une réunion du collectif féministe de Bourg.
Oui.
Et tu me parlais donc de la nouvelle où il y a le personnage de la mercière comme un personnage extrêmement féminin. Pendant que tu parles, là, je ne peux m'empêcher de faire des liens entre cette femme mercière... Et peut-être toi, dans ce côté-là, comme tu me l'as décrit de façon très, très féministe, je me dis qu'il y a peut-être un côté mercière chez toi avec l'envie, si
mon
tu
côté
veux.
Mercière.
Non, mais avec cette envie-là, ou peut-être plus brodeuse, si tu veux. Enfin,
tricoteuse, il y a tricoteuse aussi. Elle tricote d'ailleurs, il y en a une qui tricote. Elle tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ce qui lui permet de repousser en fait une espèce de diable qui veut aussi... Donc, toutes ces mauvaises pensées, en fait. Mais je pense que c'est au-delà de moi, c'est ce dont tu parlais d'ailleurs tout à l'heure hors antenne, c'est le côté transgénérationnel. C'est-à-dire que je pense, moi, je me sens vraiment... j'imagine la lignée des femmes qui m'ont précédée. Et je pense que cette lignée des femmes, elles ont été vraiment... Moi, chez moi, il y avait la religion catholique très fort. Et toutes ces femmes avant moi n'avaient pas de métier, vraiment. Elles ont élevé leurs enfants, elles ont beaucoup travaillé parce qu'elles étaient dans la culture, dans les champs. Mais il y a une histoire de... Il y a ça, je pense à ma grand-mère qui voulait, par exemple... travailler à être, je sais pas comment on dit, chapelière, travailler avec des chapeaux, créer des chapeaux, et qui finalement s'est retrouvée avec beaucoup d'enfants et la culture. Donc elle a eu une vie très, très heureuse aussi. C'est pas... Mais il y a quelque chose comme ça d'étouffé dans le destin de ces femmes qui certainement ressurgit aujourd'hui dans cette tête coupée d'homme, en fait, dans la poubelle.
Ça serait cette tête coupée serait un peu l'image de d'une menthe religieuse.
Non, ce serait plutôt l'image de l'homme qui finalement a pris dans l'histoire, enfin c'est depuis des siècles la parole. C'est l'homme depuis des siècles qui parle, qui réfléchit, qui étudie les sciences, qui fait de la politique, qui écrit des livres, qui est plein de choses comme ça. Et même si les femmes ont beaucoup participé aussi à la vie intellectuelle, artistique. Elles ont souvent été quand même un petit peu mises de côté, ou on les a moins entendues, ou en tout cas moins fortement. Et cette nouvelle, c'est vraiment, je pense que c'est ça qui est le terreau de cette nouvelle, c'est ce qui est dit ici.
D'accord, et bien, tu vois, de parler comme ça de femmes, de parler du lien intergénérationnel, eh bien, c'est totalement en relation avec un autre livre de ma sélection, qui est donc l'ouvrage de Nina Bouraoui, donc « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». Et dans cet ouvrage, que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire, eh bien, on y trouve des souvenirs de l'auteur qui sont relatés, entrecoupés de ses premières rencontres avec les femmes. On y trouve donc des passages de son enfance en Algérie, de sa vie à Rennes chez les grands-parents maternels, de ce que sa mère a connu comme traumatisme chez ses propres parents, et elle, de ses rencontres donc avec les femmes. On a vraiment l'impression que tout se tient. On en parlait hors antenne, justement, de ces traumatismes intergénérationnels et d'où venaient-ils. On a du mal vraiment à apporter un sens à tout ça. En tout cas, dans ce roman de Nina Bouraoui, on a beaucoup de sensibilité, de la délicatesse aussi, avec une certaine pudeur, pour évoquer des faits qui demandent ensuite au lecteur de donner sa propre interprétation, de lire entre les lignes ce qui s'est joué donc dans sa famille. Il y a une question qui reste. La narratrice considère-t-elle son histoire comme la résultante de tous les destins des femmes de sa famille? C'est vraiment une question qui m'est restée à la fin de cette lecture. Donc je vais lire ce qu'on appelle l'incipit de ce roman, donc « Tous les hommes désirent naturellement savoir », de Nina Bouraoui. Je me demande parmi la foule qui vient de tomber amoureux, qui vient de se faire quitter, qui est parti sans un mot, qui est heureux, malheureux, qui a peur ou avance confiant, qui attend un avenir plus clair. Je traverse la Seine, je marche avec les hommes et les femmes anonymes et pourtant ils sont mes miroirs. Nous formons un seul cœur, une seule cellule, nous sommes vivants. J'ai vécu en France, plus longtemps que je n'ai vécu en Algérie. J'ai quitté Alger le 17 juillet 1981, avant la décennie noire, j'avais 14 ans. Combien d'amis, de voisins, de connaissances tués depuis? Rien ne m'a suivi rue Saint-Charles, ma première adresse à Paris. Je me tiens entre mes terres, m'agrippant aux fleurs et aux ronces de mes souvenirs. Seule la mer relie les deux continents. Ma mémoire est photographique. Elle restitue la couleur et le grain de peau des corps qui se baignaient au large de Cherchel. Je ferme les yeux et je traverse Oran, Annaba, Constantine. Dans mes images, rien n'a changé et rien ne changera. Je pourrais tracer sans me tromper le plan exact de l'appartement d'Alger, le couloir et les chambres, le salon et la bibliothèque, les bandes de lumière qui striaient le carrelage et que je prenais pour des signaux lancés par les habitants d'une autre planète, rêvant qu'ils me choisissent et m'enlèvent. Je suis son architecte et son archéologue. Voilà, c'était un extrait donc de Nina Bouraoui, « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». Alors j'ai envie de faire une petite pause musicale, je ne sais pas si ça te conviendrait Gaëlle, qu'on écoute donc un morceau que tu nous as donc transmis pour aujourd'hui, donc plus particulièrement Lazarus de Steven Wilson.
As the cheerless towns pass my window, I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the analog. Follow me down to the valley below. You move, moonlight is bleeding from out of the soul. I survived against the will of my twisted foe. of my world. The silence broke and said, follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding from out of the soul. Follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding from out of the soul. My David, don't you worry, this cold world is not for you. So rest your head upon me, I have strength to carry you. Follow me down to the valley below.
Follow me down.
You know, moonlight is bleeding from out of your soul.
C'était un extrait de l'album Transcience de Steven Wilson, donc un morceau choisi par notre invité Gaëlle Heureux. Alors Gaëlle, quand tu écris, j'avais envie de savoir, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains maintenant qui nous font part de leur liste de musique qui les amène à l'écriture ou à écrire un texte en particulier. Toi, c'est le cas ? Tu as des musiques comme ça qui te portent, qui t'inspirent? Est-ce que tu fais un choix de musique pour telle et telle nouvelle ou tel et tel texte?
Oh non, je ne vais pas jusque-là, non. Mais j'écris en musique, oui. Je pense que j'écris la plupart du temps avec de la musique, en fond sonore, oui. Par contre, je ne choisis pas une musique par texte ou par nouvelle. J'écoute ce que j'écoute simplement à ce moment-là. Je sais par contre que... Pour l'écriture de Sanglier Noir, Pivoine Rose, j'étais à fond dans l'album Kid A de Radiohead. Je pense que là, c'était vraiment la bande sonore de Sanglier Noir, Pivoine Rose, c'est Radiohead Kid A. Mm-hmm. Et pour Insta Miniature, je ne me souviens pas, mais il y a toujours de la musique et je ne peux pas par contre écouter, d'ailleurs j'en écoute pratiquement plus de morceaux avec un texte français. C'est vraiment impossible d'écrire avec, parce que c'est trop perturbant.
Bien sûr. Mm-hmm.
Donc il faut que ce soit soit de la musique sans paroles, soit des paroles anglaises,
oui.
On prend moins.
Oui, que les mots ne viennent pas parasiter ton écriture. Justement, tu fais référence à un destin miniature, et c'est amusant parce que d'un côté... Tu écris un destin miniature et de l'autre côté, alors il n'y a certainement pas forcément une concomitance avec ton émission où tu présentes des destins qui ne sont pas des destins miniatures.
Ouais, c'est des destins des grands écrivains.
Oui.
Donc forcément, ils ne sont pas miniatures. Les destins de Céline, de Philippe Roth, de Marguerite Duras, de Sioran. Mm-hmm.
Est-ce que ta plume d'écrivain, quand tu conçois tes émissions, est-ce que tu nourris finalement tes émissions de ta plume d'écrivain ? Est-ce que tu y trouves quelque chose, quelque chose qui te nourrit et qui va dans le même sens que l'écriture ?
Non, je pense que c'est assez séparé. Je pense que c'est intéressant pour moi parce que ça me fait découvrir plein de choses sur la vie de ces écrivains que je ne savais pas forcément. Donc, j'aime bien fouiller leur existence, leur vie dans tous les recoins et trouver des anecdotes, des choses comme ça. Je trouve que la vie des gens, enfin la vie des écrivains en particulier, éclaire particulièrement leur œuvre, en fait. C'est très intéressant de partir aussi de la vie parce qu'on dit souvent, bon, les écrivains, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est leur œuvre, c'est ce qu'ils ont écrit, leurs romans, leurs nouvelles, leurs textes, leur poésie, et pas tellement leur vie, avec qui ils étaient mariés, s'ils ont eu des enfants, quel malheur ils ont eu dans leur vie ou quel bonheur. Et en fait, moi, je pars du principe inverse. Je pense que c'est très intéressant justement d'aller voir quelle vie ils ont eu, quels parents ils ont eu, quelle éducation ils ont eu, quel revers dans leur vie, quel drame, quelle joie. Ça donne beaucoup de clés, je pense, pour leur...
Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai écouté quelques-unes de tes émissions, plus particulièrement celle de Céline, parce que j'ai une passion pour le voyage au bout de la nuit. Et donc, je reviendrai là-dessus sur Céline un peu plus tard. Mais c'est vrai que j'ai ce sentiment que... Enfin, on en avait déjà discuté, que c'est important de connaître la vie de l'auteur. Alors que dans ma formation, moi, on nous dit bien... Non, le texte prime.
Le texte est le texte. Oui, voilà, le texte est simplement le texte. Mm.
Mais bon, quand on écrit un petit peu, on se rend compte à quel point tout ce que l'on vit, finalement, nourrit
alimente,
le texte.
Bien sûr, on écrit avec son cerveau, hein, on ne peut pas prendre celui du voisin. Donc forcément, on écrit avec son histoire et avec qui on est. On écrit avec ses tripes, on écrit avec son mal de dents, on écrit avec tout ça.
Donc, on va peut-être un peu parler de ton roman, Un destin miniature, donc ta deuxième œuvre, hein, et publié donc dans la même maison d'édition.
Aux éditions de la Table Ronde, oui.
Voilà. Donc, on est tout de suite plongé dans la voiture de Paul, quand celui-ci se fait attaquer par une bande et est tabassé donc, sur une aire d'autoroute. On ne sait pas trop pourquoi. On sait qu'il fuit. Il sera ensuite recueilli par des sœurs à sa sortie d'hôpital, puis il passera quelques semaines dans un foyer de jeunes travailleurs où il rencontrera Maud. Sa volonté de travailler l'amènera jusqu'en Bretagne. Enfin, j'ai identifié la Bretagne d'après le nom, hein, même si ce n'est pas dit de façon certaine.
Il part en direction du nord et en direction de la mer, donc oui.
Oui. Donc la Bretagne.
Oui, oui, oui.
ou plutôt le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, d'accord. Ok. Mais c'est parce qu'il y a un moment donné, un village qui doit être commencé par Caire quelque chose, où il y a quelque chose comme ça.
Oui,
je
oui,
me suis dit,
oui,
ça
bien
c'est.
Sûr, oui, oui.
Pour moi, c'est la Bretagne. Tu vois. Voilà. Donc vraisemblablement, il va exercer un petit boulot et donc obtenir par la suite un emploi plus sérieux. Et il finit par se construire une vie. Et c'est assez inattendu. On le voit, on se dit qu'il va retourner vers Maud. Et puis finalement, non. Est-ce qu'il se contente de peu ?
Mais en fait, c'est un jeune homme, je crois qu'il devait avoir 26 ou 27 ans, qui a fait une thèse, qui est en doctorat, qui a fait une thèse d'économie ou d'économétrie, quelque chose comme ça, très sérieux. Il a comme ça chez lui une cinquantaine de cahiers empilés, qu'il mesure d'ailleurs. Hein. Il a 3, 4, 5 mètres de cahiers qui l'ont amené à faire cette thèse. Et il est complètement à côté de ses pompes, en fait. Oui. Il vit tout seul avec sa mère. Il est complètement étouffé par sa mère. Mmh. Et un soir, ils mangent tous les deux au moment de la soupe poireaux-pommes de terre. Il a une espèce de crise de panique et il se dit, c'est une question de survie psychique, il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il s'en aille de ce couple comme ça, un peu ratatiné qu'il forme avec sa mère.
Ah,
donc il part à l'aventure comme ça, il se lève de table. Il prend les clés de la voiture, il démarre la voiture qui est au sous-sol et il part. Il part à l'aventure et il se fait en effet tabasser sur une aire d'autoroute. Il est recueilli. Enfin, il a toute une trajectoire, c'est une espèce de comment on peut dire, de road movie, enfin,
oui,
de road book, pour le coup. Et il part comme ça et petit à petit, très modestement, avec beaucoup d'humilité, il arrive à construire sa vie. Mais c'est un personnage qui est tout en délicatesse, tout en sensibilité.
Oui.
Et donc, il se heurte aussi à la dureté du monde. Et...
Oui. Alors, c'est vrai que d'un côté, on peut le voir aussi comme un héros un peu léthargique, qui laisse en fait les choses se faire quelquefois. Quelquefois, il n'est pas vraiment dans l'action. Hein.
Non, il est dans l'observation.
Voilà. Et moi, il m'a fait quelquefois penser à Bardamu.
Oui, exactement. Il est dans l'observation. En fait, c'est un écrivain qui ne sait pas qu'il est écrivain. Mmh. Qui ignore ça. Donc, il note comme ça dans son petit cahier des phrases qu'il entend à la volée, qui chope des petites phrases anodines comme ça, des gens. Et il est vraiment dans... Il n'est pas du tout ni dans la compétition, ni dans la conquête de quoi que ce soit. Il observe les plantes, les... Comme mmh. ça, il a un côté un peu très rêveur, très contemplatif. Mais il y a une espèce de résistance. Parce que malgré tout, il va où il veut aller.
Mmh. Il m'a semblé que c'était quelqu'un vraiment qui avait fait... Enfin, pour moi, mais c'est sûr, il a fait un burn-out de ses études. Et donc, petit à petit, effectivement, il se reconstruit. Et on le voit avancer très, très progressivement, faire le deuil de Maud.
Oui, Maud, c'était vraiment sa première expérience. Mmh. C'est une fille un peu perdue. Après, c'est avec Louise, je crois, qu'il s'en
oui,
va à la fin,
fait.
Qui part, donc une collègue de travail.
Oui.
Puisqu'il travaille dans une banque où il est...
Et finalement, quelque part, il revient
pas à sa place
aussi,
du tout, d'ailleurs. Oui.
Oui, mais il revient quand même à ce qu'il connaît plus ou moins, vu qu'il est en comptabilité.
Oui, oui,
hein.
Oui. Oui, oui.
Voilà,
il est au service des chèques et des virements, je crois.
Voilà, c'est ça. En plus, il s'éloigne le plus possible des gens, puisqu'au départ, on lui demande d'être dans une logique commerciale. Mmh. Et puis, au final, eh ben,
il est tout à fait inadapté à ce genre de
ouais.
choses, oui.
Et c'est amusant parce que il a quitté aussi son petit boulot de serveur où il était au contact des gens. Voilà, c'était quelque chose. Ça a été vraiment un intermède, cette relation avec les autres, pour ensuite se replonger dans une vie plus simple, peut-être un peu plus à l'écart des autres, justement plus contemplative. Où il vit des histoires de façon un peu protégée. Je crois que ça donne cette impression que sa relation avec Louise va être quelque chose de plus protégé, dans le sens où il ne s'expose plus dans les rapports humains.
Oh, oui, il y a une espèce, toujours, c'est une espèce d'incommunicabilité, en fait, qui est traitée dans ce que j'écris toujours avec les autres. Donc, il est un peu à part. Hein. Il est là aussi, il est singulier.
Oui.
C'est un personnage... un peu éminemment singulier, je dirais, oui. Dans le côté un rêveur, un peu... mais qui, quand même, a un regard assez ironique sur les gens et les choses, décalé et un peu ironique.
Mais je crois que son expérience de vie suite à ce burn-out lui a donné aussi ce regard particulier sur l'existence.
Oui, il y a une certaine acuité dans son regard quand même, comme il observe le monde et les autres.
Est-ce que tu veux nous en lire un passage ?
Oui,
parce que moi, je trouve que c'est grand luxe quand c'est l'auteur qui nous lit un passage lui-même de son œuvre.
Je n'ai pas préparé de passage en particulier.
Non, bien sûr, je te prends un petit peu comme ça, au dépourvu.
Qu'est-ce que je pourrais lire ? Peut-être l'incipit, du coup.
Oui, l'incipit, vas-y.
Donc le premier chapitre s'appelle « Le salon du chiot ». J'ignore où je vais dormir cette nuit. J'ai quelques billets en poche, de quoi tenir 2 ou 3 jours. Il pleut. Je relève ma vitre et mets le chauffage. Je suis partie sans prendre de veste, dans une absolue précipitation. Tout est resté en plan. Mes cours sur mon bureau, mes livres... Je n'ai même pas éteint ma lampe, ni fermé la porte de ma chambre. Ma mère m'a appelée pour manger, et moi, au lieu de m'asseoir à côté d'elle, au lieu d'avaler ma soupe poireaux-pommes de terre, de beurrer des petits morceaux de pain pour accompagner les radis croque au sel du samedi soir, je me suis ruée dans la voiture et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Prochain aire de repos, 1000 mètres. Je me gare. Le parking est quasiment désert. À quelques places de la mienne, une femme et un enfant descendent d'un break bleu. Elle ouvre le coffre tandis que le gamin se dirige vers les broussailles. La pluie a cessé. J'ai l'impression d'être un hors-la-loi, un fugitif recherché par toutes les polices. Je vais boire au robinet des toilettes. Je pourrais rentrer, faire le parcours inverse. Je m'excuserai pour le retard. Piocherai dans le frigo avant d'aller me coucher. Je pourrais rentrer, bien sûr, mais je crois que j'en mourrais, je veux dire réellement, parce que la plupart du temps je me sens déjà mort. Cet état m'est devenu intolérable, précisément ce soir à 20h, pour une raison qui m'échappe.
C'est un passage extrêmement intéressant que nous avons écouté là avec l'incipit, parce qu'on le sent qu'il est un peu perdu comme handicapé.
Ah oui, il est complètement perdu, c'est-à-dire que pour lui, il n'a pas d'existence vraiment propre. Et il a absolument besoin pour construire sa vie de partir, de s'échapper. C'est une question, là, il le dit, de mort psychique.
Oui. Et
de survie psychique.
Ça me fait penser un petit peu à l'ouvrage que je vais présenter maintenant, qui est Éloge de la faiblesse d'Alexandre Jolienne. Alors, Alexandre Jolienne, dans cet ouvrage, se lance dans un dialogue avec Socrate. Mmh. Et il nous parle énormément de son handicap, hein, et du fait qu'il a dépassé ce handicap pour aussi maîtriser sa pensée, pour réfléchir le monde, et donc pour le comprendre. Et en fait, de sa faiblesse, il en fait une force. Et c'est un livre extrêmement intéressant où on voit cet être quelque part qui, n'est pas apparemment promis à des grandes études, qui va finalement les faire. Alors que le personnage du dessin miniature, c'est un peu le contraire. Il a fait des études, il s'est projeté dans quelque chose un peu de tout établi où il n'a pas eu, on a l'impression, voix au chapitre. Tandis que Alexandre Jolienne, lui, il a vraiment décidé les choses et il s'est battu pour cela. Mais il montre qu'au départ, il est parti vraiment dans une extrême faiblesse et c'est sa force de caractère qui lui a permis d'obtenir ce qu'il a obtenu en termes d'études puisqu'il a fait une haute école de commerce. Alors, je vais vous lire un petit passage de Éloge de la faiblesse d'Alexandre Jolienne où il parle donc à Socrate. Et il lui dit « On m'a appris un jour que comprendre, au sens hébreu du terme, signifiait goûter, faire l'expérience de. La connaissance dans la culture hébraïque diverge d'un certain intellectualisme, héritage du monde grec que tu connais beaucoup mieux que moi. Pour les Juifs, se connaître, c'est s'imprégner de sa propre histoire pour lui donner un sens, une signification, faire des expériences. » Socrate répond « Là encore, ce n'est pas si évident. » Non, on peut accumuler les expériences pour fuir la réalité, sans en considérer le sens profond, la signification, les conséquences qu'elles ont sur nous et sur notre entourage. Grâce à la réflexion cependant, chaque événement peut aider à construire, à choisir ce qui nous fait vivre, à choisir la vie. Reprenons les enseignements de l'étymologie hébraïque, offrons-nous une brève digression sur le bien et le mal. Bien en hébreu s'emploie pour les champignons comestibles et mal pour ceux qui nous tordent l'estomac jusqu'à l'agonie. Se connaître, c'est précisément connaître ce qui est bien, ce qui favorise la vie et non accumuler des expériences stériles. Beaucoup de personnes venaient travailler quelques jours au centre pour faire des expériences. Cela nous gênait d'être objectivés presque comme des cobayes des cas cliniques rares. » Donc je m'arrêterai là sur l'extrait de Éloge de la faiblesse d'Alexandre Jolienne. Et je crois que Paul, dans Un destin miniature, comme il est enfermé dans quelque chose qui ne lui correspond pas, a besoin de se heurter très violemment à la réalité. Et j'ai l'impression que quand il se fait tabasser sur l'air d'autoroute, c'est aussi parce qu'il ne fuit pas.
Oui, c'est sa renaissance, très douloureuse, mais c'est peut-être le point de départ de sa naissance, véritablement.
Oui.
C'est douloureux.
Oui.
Mais sa force à ce Paul Park que j'ai imaginé, c'est vraiment d'être parti. Là où, s'il avait été réellement faible, il serait resté.
Oui.
À manger sa soupe pour pommes de terre, ses radis crocosel. Lui, il a fait ce geste désespéré de s'enfuir, de partir, de s'échapper et ensuite de se reconstruire.
Donc pareil, c'est une seconde naissance, un accouchement dans la douleur.
Oui, mais c'est toujours, c'est comme Alexandre Jolien, c'est vraiment une histoire de sens. On est dans la quête de sens. Alexandre Jolien, ce qu'il a fracassé, évidemment, c'est son handicap. C'est sa naissance, je crois que c'est très mal passé.
Oui, Si mes souvenirs sont bons, c'est le cordon ombilical
autour du cou. Qui a privé d'oxygène son cerveau, je pense, pendant trop longtemps, et qui lui a laissé un handicap moteur. Mais du coup, c'est une survie aussi pour lui. C'est une question de survie, je pense, de se lancer dans la philosophie, dans la quête de sens, dans la connaissance de lui-même. Et pour Paul Park, pour en venir à Paul Park, modestement, ses études ne lui apportaient pas ça, cette nourriture de psychique.
Oui, il a voulu faire comme son père, quelque part.
Le père, on n'en parle pas, il est...
Il est expert comptable, si tu en parles un petit peu, il est expert comptable. Oui. Et quand on sent que...
Mais il n'est pas dans le décor, disons, enfin, il n'est plus là. Oui,
il n'est plus là, mais on sent qu'il y a quand même une ombre qui filiation, plane. Oui. Et que ce jeune homme, Paul Park, c'est ça ?
Mais oui, Paul...
Et quand même un peu le mari de remplacement de la mère, quelque part.
Oui, mais il a avalé ses études tout rond, en fait. Il n'y a rien de digéré ni d'incorporé. C'est, pour lui, ça n'a pas de sens.
Donc il est en quête de sens. Alors c'est intéressant parce que le livre dont on va parler maintenant, La fissure de Jean-Paul Didier Laurent, c'est aussi un homme qui est en quête de sens. C'est donc on parle de Xavier qui est un directeur commercial d'une usine de fabrication de nains de jardin. C'est une usine qui a été rachetée par des Américains. Ça semble extrêmement étonnant.
Enfin, c'est dans la miniature aussi, hein. Oui. Les nains de jardin.
Oui, tout à fait. Et en fait, c'est extrêmement intéressant chez Jean-Paul Didier Laurent. C'est ce que j'apprécie, c'est qu'il nous plonge dans des milieux assez incroyables. À un moment donné, c'était l'histoire d'un thanatopracteur. Mm-hmm. Ça te parle, ça, mm-hmm. L'histoire d'un thanatopracteur. C'est son deuxième roman.
J'ai lu un livre de cet auteur, mais je ne me souviens plus.
Donc, il y a le lecteur du 6h27.
Oui, qui a eu beaucoup de succès.
Et puis, il en a d'autres, qu'il édite toujours donc, au Diable Vauvert. J'aime beaucoup cette maison d'édition. C'est pour ça que je n'hésite pas à la citer. Je regarde rapidement si j'ai les informations sur lui, parce que j'avoue, je m'en veux. Je n'ai plus le titre de son deuxième... Alors, il y a Macadam, mais c'est surtout Le reste de leur vie. Le reste de leur vie, c'était l'univers déjà d'un jeune homme qui est thanatopracteur.
Je ne connais pas ça. Il me semble que j'avais lu un livre où il était dans un train et faisait une rencontre avec une femme dans un train. Mais je ne sais pas...
Alors, il me semble que ça doit être le liseur du 6h27, ça, et où le jeune homme, en fait, travaille dans une usine où il envoie des livres au pilon.
Non, c'est pas celui-là.
C'est pas celui-là.
Celui-là a eu beaucoup de succès.
Oui.
Hein. C'est son succès.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et puis il y a eu donc ce recueil de nouvelles Macadam. Donc on retrouve beaucoup de nouvelles. Je l'avais présenté à l'antenne. On retrouve beaucoup de nouvelles qui ont été primées. Donc voilà. Donc la fissure, c'est l'histoire de la vie morne de Xavier jusqu'au moment où il se rend compte d'une fissure dans le mur de sa maison de campagne. Cette fissure va l'obnubiler et va déclencher un raz-de-marée dans sa vie. Mais au point où il va se poser la question d'où vient cette fissure, pourquoi est-ce qu'elle s'agrandit, que se passe-t-il ? Donc on va retrouver, comme je disais, des personnages au métier peu commun, des situations amusantes, un peu de magie aussi, c'est riche, surprenant. Il y a une belle réussite quand même dans cet ouvrage, même si je reste mélancolique du liseur du 6h27. Moi, ça a été vraiment une découverte de cet auteur et je reste sous ce charme-là. Alors là, c'est vrai que cette fissure, elle va nous emmener à l'autre bout de la Terre.
Hein. Mais c'est souvent un détail qui...
Oui. La fissure, elle est comme tu as des éléments extrêmement symboliques dans tes ouvrages.
La fissure, elle est chez lui. Voilà. Elle n'est pas dans son plafond ni dans son mur.
Ben voilà, elle est totalement métaphorique de ce qui se passe effectivement dans sa tête et en fait, il va se retrouver à l'autre bout du monde où il va revivre sa vie, mais comme un négatif de photographie. C'est assez surprenant, assez intéressant de penser les choses de façon différente et c'est très bien construit. Donc on éprouve beaucoup de plaisir à la lecture de cet ouvrage parce qu'on est on voit cette originalité de l'auteur et qui vit une vie où voilà, il en arrive même à tuer sa voisine en s'amusant à s'exercer avec la carabine de son beau-père. Et ben voilà.
Aïe, il y a des dommages collatéraux.
Il sent des odeurs dans le jardin d'à côté et en fait c'est la voisine qui l'a observé, qui l'a espionné et puis qui malheureusement s'est pris une balle Et lui, il ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Il y a des choses comme ça qui marquent. Il y a par moments une grande violence et puis c'est rattrapé par un peu d'humour, un petit peu comme dans certains films anglais, « Petit meurtre entre amis » ou des choses comme ça, tu vois, avec un humour grinçant. Voilà, c'est assez sympathique. Allez, je vais lire aussi donc un début de cet ouvrage, donc de Jean-Paul Didier Laurent, « La fissure ». Dans l'art du bûcheronnage, le cran de chute est l'entaille en V pratiquée sur le fût d'un arbre pour définir la trajectoire de son abattage. Même infime, ce cran oriente l'effondrement du tronc en déséquilibrant l'ensemble du côté souhaité. Mettre à bas un géant vert sans effectuer cet acte préliminaire peut s'avérer des plus périlleux. Régulièrement, des bûcherons du dimanche dont l'ignorance égale la bêtise s'y essayent, avec les risques que cela comporte et des résultats à l'opposé de leur ambition première. Ainsi tronçonné, l'arbre, lorsqu'il ne se contente pas de rester cramponné de toutes ses branches à ses compagnons, peut osciller longtemps avant de choisir de son propre gré l'endroit de son effondrement qui peut se solder par l'aplatissement d'un véhicule, l'écrasement d'un hangar, ou la pulvérisation de la véranda du voisin avec pour seule compensation un passage éclair dans Vidéogag, à condition que le beau-frère chargé de la caméra n'ait pas oublié d'appuyer sur le bouton marche au moment de l'accident. Quand l'entreprise ne s'achève pas tout simplement par l'écrabouillement du tronçonneur novice et de son engin pétaradant. Là, avec ces Tinky Pete, on voit bien cette métaphore aussi de la fissure dans l'arbre lui-même, l'arbre qui n'est autre donc, que le personnage principal.
La fêlure.
Voilà, la fêlure. Enfin, c'est un livre extrêmement intéressant et qui a des échos, bien évidemment, aussi dans tes ouvrages. Donc, nous arrivons maintenant à la fin de notre émission. J'aurais aimé la prolonger avec plaisir avec toi, Gaëlle, mais on me fait signe que... Nous sommes à la fin de notre temps imparti. J'ai passé un très bon moment en ta compagnie, Gaëlle. J'ai découvert vraiment tes ouvrages et c'était une grande source de connaissances, de plaisir, de réfléchir et d'avoir aussi des réponses aux questions que je me posais. Donc, remercie du temps
c'est
que tu nous as accordé.
C'est moi qui te remercie.
Et je te dis à bientôt, à très bientôt sur les ondes dans ton
à
émission.
Bientôt. Oui.
Et puis bien évidemment à bientôt au mois prochain pour une nouvelle sélection. Retrouvez l'émission sur notre site radio-b.fr puisque l'émission est podcastée et sinon en rediffusion dimanche. À bientôt.